Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du Havre.
Bonjour et bienvenue sur Osmose Web Radio en direct du Novotel Avignon Centre. J'ai le plaisir de recevoir Cécile Saint-Paul
et Antoine Lingot.
Voilà, et qui vont nous présenter leur spectacle qui se joue tous les jours à la chapelle des Antonins à 21h45. Et il y a des jours de relâche.
Le lundi. Tous les lundis.
Donc prochain, bonjour. Lundi oui. Prochain. Et ce spectacle a pour titre Phèdre seul.
Oui.
Donc,
c'est exact.
Voilà. Moi, j'ai eu la chance de voir le spectacle. Donc, j'ai trouvé que c'était un... D'abord, parce que je suis très amoureuse de Phèdre dans le théâtre et que chaque année, sauf l'année dernière, puisqu'il n'y a pas eu de festival, j'aime bien retourner voir les classiques. Et j'aime bien qu'on les revisite aussi, que ça nous donne un autre rythme, une autre allure. Alors, ce Phèdre seul, je l'ai vu. Je trouvais que c'était quand même un Phèdre très audacieux, très déroutant aussi. Mais bon, on parlait... Je vous donne juste ce que j'ai ressenti. Ça tient en quelques lignes, je ne vais pas tout vous dire. Mais en même temps, Cécile, vous présentez Phèdre en 5 actes, comme chez Racine. Il n'y a pas les autres personnages de Phèdre de Racine sur scène. Mm-hmm. Mais vous les interpellez tous. Ils sont tous interpellés à un moment donné.
Interpellés
Vous les citez, sans les citer. Ils sont là.
Pas tous, parce que comme j'ai exclu les scènes dans lesquelles ne figure pas Phèdre, les personnages comme Aristi, elle est citée, mais je ne m'adresse pas à elle.
Mais vous, c'est donc, ça.
Enfin, Phèdre ne s'adresse pas à elle.
Oui. Phèdre, c'est vous, hein, quand même.
Oui.
Et moi, bon, juste avant, on va continuer sur la pièce, vous allez nous la présenter, parce que moi, il y a des pièces de théâtre où Phèdre, elle est habillée en noir, alors que pour moi, Phèdre, elle est forcément rouge, c'est la couleur de la passion. Donc déjà d'emblée, ça m'a beaucoup touchée, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée. Mmh. Je dis que c'est déroutant parce que c'est quand même culotté de faire un Phèdre seul, Cécile.
Oui, d'ailleurs, j'étais pas très tranquille avant les premières représentations. Pour moi, c'était aussi, d'une part, l'envie de faire un solo parce que je n'en avais jamais fait dans ma vie. Et en lisant cette pièce, je me suis rendu compte que si on déroule tout le texte de Phèdre intégralement, en enlevant les scènes secondaires et les répliques des autres personnages, l'intrigue tient parfaitement. Il manque vraiment très peu de choses, des petits bouts de réponse. Mais on a quand même dramaturgiquement une cohérence complète. Et donc, on peut imaginer que cette femme... prise par la passion, voire la folie ou la solitude, parce que je voulais aussi parler de solitude, que cette femme s'adresse à des ombres, des fantasmes, des souvenirs ou à elle-même.
Oui, mais c'est voilà. Ce qu'on ressent, nous, spectateurs, et en même temps, on a l'impression que Phèdre, comme c'est un monologue, du coup, on a quand même l'impression qu'elle nous fait, nous, spectateurs, confidents. Nous sommes devenus les confidents de ce drame qu'elle vit, de cet amour, de cette passion qui va loin quand même. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, on disait quand même que votre mise en scène, vous êtes metteuse en scène aussi, vous avez mis en scène votre...
Je me suis auto-mise en scène.
oui, auto-mise en scène, c'est ça. on a trouvé que ça flirtait parfois avec le surréalisme.
Ah, mais ça me fait très plaisir.
Et qu'on y a trouvé...
Ce sont mes premières amours.
mais on a trouvé une symbolique, je vous dis. Parce qu'on était deux spectateurs, donc on a réuni nos ressentis. Que la symbolique est forte, elle est aussi très énigmatique. Et puis, il y a les images. On ne va pas tout dévoiler, parce qu'il faut quand même que les spectateurs aillent vous voir. Que la bande-son... Alors, on a trouvé parfois des tonalités un peu sourdes à la bande-son, mais on imagine que c'est voulu.
Sourde. Oui, sourde. Ça m'étonne pas. Oui. Alors bon, on est un peu contraint techniquement parce qu'on n'a pas de temps dans la salle et je n'ai jamais répété en salle avant de jouer ici.
Ah bah oui, c'était donc, vraiment l'épreuve du feu.
Voilà,
hein.
Et donc c'est moi qui ai fabriqué la bande son et par moment également, je trouvais qu'elle était sourde et qu'on pouvait rééquilibrer. Équalisée, mais comme elle se déroule d'un bout à l'autre, sans interruption, c'est très difficile d'intervenir dessus. Il faudrait pour ça qu'on ait le temps de reprendre un petit peu
Mais pour nous, c'était révélateur, comme si c'était une espèce de coryphée qui nous délivrerait un message. Mm-hmm. Les codes, après, appartiennent à chacun. Vous êtes la comédienne et le spectateur, il reçoit le message différemment. Alors, j'ai envie de dire aussi, je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire de connaître Phèdre de Racine.
Non, pas forcément.
Parce que moi, j'aime beaucoup le personnage de Phèdre, mais je n'en ai pas forcément des bons souvenirs parce qu'on l'apprend à l'école. Alors, à une époque où on ne comprend absolument rien, où il y a des choses qui nous échappent, qu'est-ce qu'elle veut, qui c'est Thésée, le Minotaure, autant de personnages. On a un peu d'idées de la mythologie, mais si peu que le personnage même de Phèdre nous échappe. Et là, je me dis, quelqu'un qui vient voir votre spectacle, qui ne sait rien de Phèdre, eh ben, il va vous écouter attentivement et il va comprendre, forcément, il va comprendre ce qu'elle vit. Parce que c'est la tempête quand même. Rien à voir avec Shakespeare.
Ça met en valeur la problématique d'une femme. Et je pense que tout ce qu'elle vit intérieurement est encore actuel. Enfin, on peut quand même s'y retrouver les unes et les autres.
Complètement. Mais c'est drôle que vous ayez eu envie de faire un seul en scène, un Phèdre, parce que vous auriez peut-être pu prendre autre chose, Cécile, non ?
Alors, je voulais me confronter, ça fait pas mal d'années que je fais du théâtre, à un texte classique, j'ai travaillé plutôt sur des choses expérimentales, musicales, poétiques jusqu'à présent, et je me suis dit, à mon âge, si je tentais la pièce la plus connue du monde, voir si... Et puis aussi expérimenter la diction de l'Alexandrin.
Ah oui.
Parce que je me demandais justement si c'était encore. Si ça pouvait encore passer.
Mais c'est terriblement actuel.
Et oui.
C'est ça que j'ai envie de dire aux spectateurs qui vont venir vous voir, c'est que l'Alexandrin est terriblement actuel. Quelle belle langue aussi.
Oui, et il est à la fois, à mon avis, naturel à notre respiration, enfin à notre langue française, parce qu'il s'en cache partout dans la prose. Et ce que je voulais, c'était ne pas mettre de côté ce rythme, comme on a pu le faire en éludant certaines syllabes pour donner une modernité à l'alexandrin, et voir ce que ça donnait de le respecter complètement en se disant « mais alors, il est là, qu'est-ce que j'en fais ?» Et par moments, ça m'a fait penser à certains rythmes de slam, etc. Je vois des jeunes qui font des choses très rythmées, très, très rimées aussi, et je me dis « c'est ça peut encore passer, ce genre de travail sur la langue. »
Ça passe remarquablement bien. C'est pour ça que j'aimerais bien que les auditeurs et les spectateurs n'aient pas peur de Phèdre, n'aient pas peur de voir un spectacle. On dit « Oh là là, mais c'est Racine, on va s'enquiquiner. » Pas du tout. Pas du tout, c'est justement le contraire. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Phèdre, pour moi, elle était forcément rouge. Et on retourne dans la symbolique. Vous portez une robe rouge sur scène. C'est l'écho du feu intérieur qui brûle en votre cœur de Phèdre comédienne. Et puis, il y a beaucoup de clins d'œil dans votre pièce quand même. Enfin, ceux qu'on a pu voir. Le Minotaure, alors il y a des vidéos où on voit une image de taureau. On a supposé que ça renvoyait...
C'est une tête de taureau, oui.
Que alors, ça renvoyait peut-être au Minotaure.
Ça renvoie à la fois au Minotaure et au monstre. La chose qui manque principalement dans cette histoire, c'est la mort d'Hippolyte à travers le récit de Théramène. Et Hippolyte est tué par un monstre à tête de taureau qui sort de la mer. En fait, cette image du taureau est présente depuis, je pense, les ancêtres. Elle parle beaucoup de ses ancêtres,
oui.
Non pas de Phèdre, mais de Thésée, puisque Thésée est arrivé. Antoine, tu me corriges. Je pense que quand il est arrivé à...
à Trézène,
non, c'est pas Thésée, c'est Minos, le père de Phèdre, qui est arrivé sur un taureau aussi. Donc, il n'y a pas qu'un taureau, il y a plusieurs taureaux.
Il y a
le Minotaure. Voilà. Et donc, cette image de taureau qui est comme, quand même la puissance masculine.
Oui,
hein
oui. oui.
J'avais envie qu'elle soit là, mais je ne voulais pas non plus faire des choses trop représentatives sur scène.
Non, mais, donc, mais voilà, nous spectateurs, on voit. On a eu cette idée du Minotaure. C'est vrai qu'on aurait pu penser au taureau comme ça. Mais nous, on se disait, c'est bien cette image du Minotaure. C'est aussi... comme une image de ce qu'on a noté, de la rage, la tempête sous le crâne de Phèdre qui la ronge, mais qui la ronge dans sa propre fureur de vivre aussi. Donc, l'image du taureau, c'est vrai, c'est une image forte, c'est une image puissante. Et puis on a trouvé aussi, on ne va pas tout dire, il faut vraiment que les spectateurs aillent vous voir, mais il y a des clins d'œil extraordinaires dans le déploiement du rideau de tulle. Donc on est resté un peu dans la mythologie, on y a vu Ariane peut-être, on y a vu aussi les parcs, pourquoi pas.
Oui.
C'était une fabuleuse idée parce qu'on vous voit dévider votre fil, donc un peu la sortie du labyrinthe d'Ariane et de Thésée.
Mais alors après, vous parliez du surréalisme tout à l'heure. Oui, et c'est comme ça que je travaille sur la mise en présence de choses et la rencontre, une sorte de hasard objectif. Donc, on a adapté à cette salle et il s'est trouvé que la salle nous a donné des idées. Et quand les idées apparaissent, tout d'un coup, elles nous font penser à la mythologie. Les contraintes nous amènent aussi à fabriquer des choses sur scène qui viennent prendre leur sens presque naturellement.
Oui, mais pas presque.
Et ça fait plaisir.
Naturellement. Oui. On a juste un doute sur l'instrument de musique que vous utilisez. Pas su. Sitar.
C'est une sitar.
C'est ça ?
Alors,
c'est
une voilà, sitar. Alors... je sais pas, j'avais envie, en faisant ma bande son, j'ai eu envie d'aller chercher des musiques qui parlaient des larmes, de la mort dans le répertoire italien. Et donc, y en a une qui ouvre, qui est enregistrée. Puis après, c'est deux chansons qui résonnent vraiment avec le texte. Alors, je ne pense pas qu'on les comprenne ni qu'on les entende, mais pour moi, c'est important. Et puis, je me suis
dit... Ah, mais elles sont partie intégrante de la pièce, quoi. Dans la pièce, même... Voilà, ça fait partie de... On n'imagine pas devoir s'en passer après.
Oui,
donc c'est...
et c'est pour donner aussi des respirations, parce que le texte, il est quand même dévidé sur une heure sans beaucoup de pause.
Finalement, cinq actes, les alexandrins de Phèdre, vous respectez les cinq actes de Racine, les alexandrins de Racine. Vous avez dit tout à l'heure qu'une fois qu'on a enlevé toutes les autres répliques, ce texte... Il tient effectivement dans l'heure, il tient et puis il est solide.
Oui.
Il tient tout seul, il tient avec votre voix, avec votre talent de comédienne. Mais oui, il est solide parce qu'on comprend, c'est pour ça que je dis...
On comprend même l'histoire qu'il y a autour,
mais tout à fait,
des autres personnages.
Tout à fait, on comprend surtout cette merveilleuse...
Et ça a le mérite aussi de raccourcir la pièce pour les gens qui s'ennuient au théâtre.
Dommage, on peut pas. Je vois pas comment on peut s'ennuyer au théâtre. Ou alors on a fait de mauvais choix. Mais ça existe, hein, les mauvais choix. Il y a des endroits ici où il y a de très mauvais choix. Mais bon, peut-être pas là pour leur faire de la mauvaise pub. Et puis votre fin aussi, votre fin qui est complètement inattendue. Chez Racine, elle s'empoisonne. Il y a d'autres Phèdres où je me souviens d'avoir vu, je crois que c'est, je ne sais plus quelle Catherine qui plante un glaive à la fin de Phèdre. Normalement, chez Racine, je crois qu'elle s'empoisonne avant d'avouer son péché, entre guillemets, à Thésée, revenu de... Oui, c'est vrai qu'on a même vu loin, nous, on s'est dit, il y a une espèce de retour comme Eurydice aux enfers, sauf que ce n'est pas Eurydice, c'est Orphée aux enfers et... Il y avait un petit peu de ça, mais la fin, elle est exceptionnelle, parce qu'elle est inattendue, exceptionnelle. On se dit, mais oh, je ne sais pas comment vous avez fait ça, c'est un coup de maître. Hein, parce que...
Alors, quand vous dites qu'il ne faut pas révéler...
Tout, pas tout, parce que Il faut aller voir cette pièce.
C'est quelque chose que j'aime bien faire dans les spectacles. Ce genre de dispositif, c'était comme j'étais dans quelque chose d'assez classique avec cette pièce, j'avais envie de quand même ramener un épisode qui fasse penser à la performance, parce que c'est un peu ça qui m'intéresse.
Ah ben elle y est.
La performance.
Elle y est incontestablement. Voilà. Mais même nous, on s'est dit, mais où est-elle ? Est-ce possible ? Comment a-t-elle fait ? Par quel miracle ? C'est extrêmement bien fait quand même. Donc là, chapeau. Mais chapeau pour toute la pièce. Cécile, vous êtes comédienne, vous êtes cinéaste aussi ?
Oui, je fais beaucoup de films pour le théâtre, principalement. Et puis, des petits films expérimentaux indépendants, voilà. Alors, mais il m'arrive de faire des films qui sont projetés dans les pièces de théâtre, voilà.
Bon. Et on discutait tout à l'heure un petit peu hors micro, vous étiez venue à Avignon il y a quelques années. Oui. Là, vous revenez à Avignon dans un climat qui n'est pas forcément... qui est ce qu'il est, quoi. Hein,
pas très facile.
Tenu du contexte sanitaire. Mmh. C'est pas simple.
Non.
Vous jouez à une heure qui commence à être un petit peu tardive.
21h45, oui, c'est tardif.
Mais en même temps, moi, j'ai envie de dire, c'est pas si tardif que ça.
Non,
il fait bon. Et c'est l'heure à laquelle on peut commencer à apprécier les spectacles, parce que sinon, même quand les salles sont climatisées, il fait chaud quand on sort. Moi, j'ai envie de défendre ce Phèdre seul parce que c'était un vrai pari. C'est un pari quand même.
Oui, c'est un pari, une traversée qu'on doit tenir jusqu'au bout. Et
que vous tenez jusqu'au bout.
Oui, et une vraie expérience intérieure aussi. Parce que...
qui vous apporte quand même.
Oui, bien sûr. Forcément, ça m'apporte. Je navigue du personnage à moi-même, de la neutralité à l'interprétation, et c'est assez intéressant de sentir ça.
J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu en amont. Oui. Donc vous prenez le texte de Phèdre, vous enlevez les répliques, je schématise, hein, parce que je pense
très simplement,
que
c'est ça.
Vous enlevez les répliques, Hippolyte, Thésée et les autres, et votre mise en scène, elle est déjà... dans votre tête, au fur et à mesure où vous avez décidé de jouer ce Phèdre seul, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez aussi tenu compte des lieux dans lesquels vous jouez.
Oui. Non, la première fois que j'ai joué ce spectacle, c'était à l'occasion d'une soirée organisée avec des amis qui font partie de l'Oulipo, qui était une soirée à la limite. Et donc, c'était il y a 4 ans à peu près, et mon projet était de le jouer toute seule sans spectateur, puisque c'était à la limite. Donc je l'ai fait sans spectateur, les spectateurs étant hors de la salle, et ils entraient pour m'applaudir. C'est très conceptuel.
Ah, c'est bien.
C'était pour aller aux limites du théâtre. Alors... Donc, il se trouve que cette soirée a été programmée à la BNF, où là, j'ai eu un immense plateau et j'ai commencé à me dire, mettons-le quand même en scène. J'ai la chance d'avoir le grand plateau de la BNF. Donc, je me suis, acte par acte, j'ai essayé de fabriquer des ponctuations qui correspondaient aux répliques des absents, des ponctuations sonores. Et des directions qui auraient été celles de l'endroit où pouvait se situer Eunone dans l'espace, Hippolyte dans l'espace, si je lui parlais, et Thésée. Et également les dieux, puisqu'elle s'adresse... les dieux sont très présents. Il y a Vénus du côté de Phèdre, Neptune du côté de Thésée, et puis le soleil... Il y a aussi les enfers, puisque le père de... Donc ce monde est très présent. Donc je me le représentais par des points dans l'espace. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fabriquer cette mise en scène. Et petit à petit, moi, comme j'aime bien mettre des images, j'ai rajouté des films. Et puis, notamment un film, alors... celui auquel on a fait allusion, dont on ne peut pas révéler la teneur, qui était absolument nécessaire, puisque à la fin de l'acte 3, Phèdre s'adresse à Thésée, qui revient
qu'elle n'attendait pas.
Et au début de l'acte 4, elle s'adresse à nouveau à Thésée, mais on sent que le temps a passé, il y a eu des scènes entre. Donc il fallait absolument que j'ai un peu de temps, et c'est là que j'ai intégré ce film, pour qu'on comprenne qu'il se passe quelque chose entre les deux moments où elle s'adresse à Thésée.
Et alors, voilà. Mon autre question, qui est une question très... Si, c'est clair, c'est très clair. Une question très personnelle. C'est pas difficile de jouer Phèdre ?
Parce que c'est... c'était ça que je voulais savoir en faisant ce spectacle.
De s'imaginer, en même temps, on est obligé de s'imaginer, dans la peau de Phèdre.
Se trouve que, comme j'ai commencé il y a très longtemps... Au début, toute seule dans ma cave, c'était très, très difficile. Et petit à petit, je pense que c'est ce qui m'est arrivé dans le passé, c'est que plus on connaît le texte, plus...
On rentre dans les...
Plus on rentre dedans. Donc là, je voulais faire cette expérience au Festival Off, parce qu'il y avait 22 dates. Et ça me permettait de vraiment d'éprouver ça sur la durée.
Je comprends. Les
premiers jours ont été très difficiles, enfin d'autant plus qu'il y avait assez peu de public, mais même j'ai l'habitude de jouer aussi sans public.
C'est dur hein, ça quand même aussi.
Oui, mais bon, ça rejoint le projet initial, donc ça fait partie de...
Parce que Phèdre, c'est une palette de sentiments immense aussi. C'est...
Et plus je le fais, et plus je sens... que j'arrive à dépasser cette difficulté, c'est-à-dire la difficulté qui consisterait à me juger, parce que de nombreuses personnes dans la tradition du théâtre l'ont joué de manière merveilleuse, et de me dire je ne suis pas légitime. Alors, justement, mais c'était ça que je voulais expérimenter, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je voulais essayer le rôle le plus fameux, savoir si... voilà, je pouvais me sentir bien dans un...
Mais Cécile,
dans c'est
vrai
ce texte.
Que Phèdre est une pièce extrêmement jouée, mais combien de Phèdre seul ?
Ah, je ne sais pas.
Donc c'est en...
Je crois que ça a eu lieu il y a très longtemps, mais ce n'était pas le même principe, parce que les autres personnages n'avaient pas été évacués, ni les autres...
C'est bien pour ça que je pense que c'est vraiment un spectacle à voir. On va rappeler que ça se joue tous les jours à la chapelle des Antonins. C'est un endroit très agréable.
Oui, c'est très beau. C'est une chapelle du XIIIe siècle, donc on est dans les vieux murs.
Tout à fait.
Et ça se sent... Hein,
tout à fait, à 21h. 45, et vous vouliez peut-être dire quelque chose quand même.
Alors, j'ai pas laissé de place pour Antoine, qui est mon complice, que je remercie parce qu'il est formidable et il m'aide. Au départ, je devais venir toute seule à Avignon et j'avais imaginé faire la billetterie.
Mais bien sûr, c'était
un solo total, et grâce à lui, j'ai pu aller au bout de cette histoire, parce qu'il y a des choses que j'aurais pas pu faire toute seule.
Dont Antoine se charge.
Dont il se charge avec humour, compétence.
Et soutien. Soutien efficace.
Voilà. Donc, et beaucoup de plaisir aussi.
Et j'imagine.
Voilà. Donc on te laisse le mot de la fin, Antoine.
Je pense que je suis un peu un spectateur privilégié, puisque je le vois tous les soirs. Et pour moi, c'est très clair. Enfin, petit à petit, ça devient très clair ce qui se passe dans cette pièce. Le fait, effectivement, qu'il n'y ait plus qu'une seule personne qui est traversée par des mouvements différents, enfin, par tout ce que l'inconscient transporte, quoi, que ce soit le surmoi ou l'imaginaire, le réel impossible, enfin voilà.
La souffrance aussi.
C'est une souffrance permanente, c'est-à-dire du début à la fin, elle ne pense qu'à mourir, elle ne veut que ça, quoi, sortir de cette vie impossible dans laquelle elle est.
Il y a un peu de Phèdre en chaque femme.
Je pense, oui.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
Profondément. Alors, on ne peut pas le percevoir tout le long du spectacle, mais par bribes. À mon avis,
se reconnaît. Ouais. Et on va toutes se reconnaître à un moment donné.
Et même les hommes.
Moi aussi.
Mais bien sûr.
Moi, je me reconnais tout à fait.
Mais bien sûr. Donc, Phèdre, seul, avec Cécile Saint-Paul, et le soutien d'Antoine.
Voilà.
À la chapelle des Antonins, à 21h45. Et la prochaine relâche, c'est lundi 26. Il restera plus beaucoup de dates. Voilà. Et c'est vraiment, si vous nous écoutez, il faut vraiment aller voir ce spectacle parce que c'est une occasion formidable de vous familiariser ou de revoir vos classiques. Ça fait pas peur, Phèdre. C'est un très très belle histoire d'amour aussi.
Oui. Et c'est de la poésie.
Et c'est de la poésie.
Enfin, le texte.
Et puis c'est un Phèdre déroutant. Déroutant et culotté et à voir absolument. Donc Phèdre à la chapelle des Antonins tous les soirs à 21h45, prochaine relâche lundi. Merci beaucoup Cécile Saint-Paul d'avoir
été. Merci Laurence, d'invitation.
Vous faites toujours des cadeaux, hein, vous savez. Donc, et merci Antoine et encore un petit peu de soutien jusqu'à la fin du festival. Moi je vous souhaite le succès que vous méritez et vous le méritez. Donc on va se revoir, forcément. À très vite.
Merci beaucoup.